7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Parfum de séduction aujourd'hui, effluves culinaires, les odeurs nous transportent dans le temps et l'espace. Oui, ce sont les odeurs qui nous gouvernent. Il suffit parfois d'un rien pour faire renaître des souvenirs d'enfance ou nous rappeler un être cher. Longtemps méprisées, les odeurs, souvent inconscientes, sont des sensations olfactives qui sont aujourd'hui utilisées pour vendre. Bref, les odeurs n'ont pas fini de nous surprendre. On va en parler avec nos invités, Annick Le Guerrer, anthropologue et philosophe. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié entre autres « Les pouvoirs de l'odeur ». Bruno Dossé, vous vous trouvez dans un studio à Rennes. Bonjour.
Bonjour.
Grâce à France Bleu Armorique, vous êtes professeur spécialiste de marketing sensoriel. Alors, il y a bien sûr la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Olivier Claudon, vous êtes ancien professeur à l'ESCP Paris, grande école de commerce, et vous avez publié La Grande Arnaque, comment on manipule le consommateur. Il y a un petit peu d'odorat dans l'histoire.
Il y en a un petit peu, oui.
Et aujourd'hui, vous êtes consultant politique. J'allais dire, ça sent pas la rose.
Non, ça sent pas toujours la rose.
On sera également en ligne avec Stéphane Arfi, PDG d'une entreprise qui vend des diffuseurs d'odeurs à des entreprises de pompes funèbres ou des maisons de retraite ou encore des cinémas. C'est ce qui s'appelle mener le consommateur par le bout du nez. Nous entendrons aussi l'histoire de Guillaume Roland, bachelier de 18 ans. Il est en ce moment même aux États-Unis, premier Français finaliste du concours d'invention Google pour l'invention d'un réveil olfactif. Imaginez, par exemple, l'odeur du café qui vous chatouille les narines, des potrons minés. Voilà. Et quant à vous, les voisins et les voisines, n'attendez pas la fin de l'émission pour témoigner ou questionner nos invités sur la place des odeurs dans votre vie. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques témoignages, très jolis témoignages qui sont parvenus sur le fil Facebook de nos auditeurs. Guy, par exemple, qui est à Casablanca. Comment pourrais-je omettre les parfums qui ont subjugué mes sens, nous dit Guy. Jamais je n'ai mangé aussi bon rôti que celui qui était concocté par, devinez qui, maman, évidemment. Rien que m'en souvenir assèche ma langue. C'était un rôti épicé de poisson à la tomate. Au loin, on pouvait humer cette odeur qui embaumait tout le quartier. J'étais donc rassurée que ma mère n'avait pas manqué à son devoir hebdomadaire. Oui, des petits airs de Proust, là. Mokhtar, Richard Toll, au Sénégal, dans le Nord. Chez nous, les femmes usent de tout un arsenal de séduction, comme l'encens pour appâter leur mari et que celui-ci n'aille pas voir ailleurs. Et pour une femme sénégalaise, la condition pour trouver un mari, c'est de sentir bon. Vous connaissez ça, j'imagine, Annick Le Guerrer, en tant qu'historienne, anthropologue.
Bien sûr, parce que les odeurs jouent un très très grand rôle dans les relations humaines et dans la séduction tout particulièrement. L'odorat est très lié à la sexualité et la psychanalyste Françoise Dolto disait même aux gens qui envisageaient de se marier: est-ce que vos odeurs s'accordent? C'est dire l'importance des odeurs dans les relations humaines.
Donc se respirer.
Oui, et il y a même des peuples qui, pour se dire bonjour, se frottent le nez, se sentent. Et le langage courant est très révélateur de l'importance des odeurs dans notre vie sociale. Je peux pas le sentir, je peux pas le piffer. On dit d'une personne vaniteuse qu'elle est puante. Donc les odeurs sont extrêmement présentes dans les relations humaines.
Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Le témoignage d'Iba aussi est intéressant. L'État Nouakchott en Mauritanie. Je suis d'une famille d'éleveurs. Certaines odeurs de lait caillé me rappellent cette période de beauté naturelle des gens et de la nature. Et à l'inverse, les odeurs des produits modernes me gênent, notamment la fumée des usines ou encore qui nous dit « Mon enfance est très marquée par les odeurs de frites, de bananes plantain épicées avec de l'huile rouge que ma gentille grand-mère nous apportait à chaque fois qu'elle venait nous rendre visite. » Il y a beaucoup de souvenirs d'enfance dans tout ça. Hein. « J'en raffole tellement que je ne peux m'empêcher de dépenser quelques pièces de monnaie pour en acheter lorsqu'en ville, mes narines repèrent un endroit où on en vend. En revanche, nous dit Oka, je ne supporte plus l'odeur du parfum que mon cher papa a utilisé tout au long de sa vie. Et lorsque je croise quelqu'un qui en met, cela me rappelle trop de souvenirs liés à mon père. C'est pas facile d'ailleurs entre mon frère et moi qui tenait absolument à utiliser les restes de parfums de notre vieux père. Je l'en ai découragé par tous les moyens. » Voilà, comme quoi il y a...
L'odeur est très liée à la transmission, bien entendu. Et lorsqu'on sent une odeur surgir d'un vêtement et que la personne a disparu depuis longtemps, elle est ressuscitée. C'est...
Andy, à Port-au-Prince, nous parle d'une odeur qui le marquera pour la vie. C'est tout simplement l'odeur de la terre humide lors des averses. On est en saison des pluies également sur le continent africain. Vous êtes nombreux à avoir parlé de cette saison des pluies qui exhale à la fois l'odeur de la terre, l'odeur de l'herbe, des plantes, des fleurs. Ou encore Maestro qui est à Bamako, au Mali. C'est toujours un transport pour moi quand me revient l'odeur des cahiers et livres neufs que mon père nous achetait pour la rentrée. Je rattache cette senteur exquise à mes beaux jours d'écoliers insouciants. Voilà, je vous rappelle le numéro de téléphone, on a envie de vous entendre. Appelez-nous 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Annick Le Guerrier, vous nous le disiez, l'odorat est très lié et on le comprend dans les témoignages, à la sexualité, à l'enfance, mais les odeurs ne se résument pas à ces évocations non plus.
Bien sûr que non, mais l'odorat a été un sens très méprisé dans la civilisation occidentale pendant des siècles, des Grecs en fait jusqu'à Pasteur, parce que l'odorat passait pour les philosophes pour un sens animal, flairé, assimilé à la bête, qui marche à quatre pattes et qui ne parle pas. Et donc, l'odorat a été très méprisé, sauf par les médecins qui, eux, reconnaissaient les maladies aux odeurs. Mais l'odorat a quand même subi ce discrédit des scientifiques, des moralistes, des philosophes, jusqu'à une période assez récente, les années 80, où il a été réhabilité. J'ai fait partie des premiers chercheurs à réhabiliter l'odorat, à montrer toute son importance dans la vie affective, sociale, dans la mémoire, dans la médecine. Et donc l'odorat, à partir des années 80, a été réhabilité. Et on a vu aussi le marketing olfactif se développer. On a vu aussi les odeurs être incluses dans les événements culturels, les expositions, les ballets, les spectacles historiques. Donc il y a aujourd'hui une reconnaissance de l'importance de l'odorat, alors que ce sens passait pour un sens inférieur, le parent pauvre de nos sens.
Parce que très émotionnel, donc finalement c'est l'humain qui ne se contrôle pas,
très lié, d'une certaine façon. Voilà, très lié à l'affectivité, et vous parliez justement de non-contrôle, les médecins mettaient en garde contre les coups de foudre olfactifs. Kant disait que c'était un sens contraire à la liberté, parce que quelqu'un qui est parfumé vous impose son odeur, que vous le vouliez ou non. Et donc, pour toutes ces raisons-là, l'odorat passait pour un sens dangereux.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Femmes dangereuses.
Voilà, ne pas développer.
Vous nous parliez du marketing olfactif et d'ailleurs peut-être aussi des dangers qui vont avec. On est en ligne avec Stéphane Harfi, qui est PDG de l'entreprise Emosens, basée à Lyon. Bonjour Stéphane Harfi.
Bonjour.
Alors justement, vous, je ne sais pas si vous créez des coups de foudre olfactifs, en tout cas vous vendez des diffuseurs d'odeurs pour des entreprises. Ce sont les entreprises qui viennent vous voir?
Ce sont les entreprises qui viennent nous voir et dans l'objectif que leurs clients, leurs propres clients, aient des coups de foudre olfactifs.
Par exemple, alors je sais pas si on peut parler de coups de foudre olfactifs quand vous avez comme client par exemple des sociétés qui gèrent des parkings souterrains.
Alors, dans le marketing olfactif, il y a plusieurs aspects. Vous avez des entreprises qui vont vouloir diffuser du parfum dans un objectif de bien-être et de confort. Et puis, vous avez des sociétés qui vont avoir un objectif qui est beaucoup plus mercantile. Et l'objectif, c'est vraiment de vendre plus. Bien évidemment, d'instaurer aussi des notions de confort et de bien-être, mais aussi de vendre plus. Par exemple, quand on travaille avec des hôtels, on est là, c'est le confort à 100%. C'est du bien-être, c'est du confort. Oui. Quand on va vendre dans les magasins, dans les boutiques, là, l'objectif, c'est aussi de vendre plus.
Ouais, mais dans le cas des parkings souterrains, quelle est l'utilité? Qu'il y ait une odeur qui se dégage, on vient garer sa voiture, on y reste quelques minutes.
Le parking souterrain, l'intérêt, c'est déjà pour la clientèle féminine, c'est de rassurer. Un parking, dans les parkings, on fait de plus en plus appel au marketing sensoriel avec de la musique et de plus en plus de parfums. L'objectif, effectivement, c'est de rassurer la clientèle féminine. Et puis, il y a aussi le confort qu'un parfum va apporter dans des zones, les zones piétonnières notamment. Et puis, l'idée aussi, c'est de lutter contre des odeurs qui sont pas toujours très agréables dans un parking. Et puis par définition, le parking pour tout le monde, ben, c'est souterrain, c'est noir, c'est aussi la pollution, c'est les pots d'échappement. Et l'idée, c'est de trouver des odeurs qui puissent être à l'opposé de l'environnement.
Mais vous admettez quand même que rassurer des femmes dans un parking souterrain qui peuvent avoir des anxiétés que l'on peut comprendre, hein, c'est quand même assez irrationnel avec des odeurs. Hein.
Il n'y a pas que les odeurs qui vont rassurer, mais ça en fait partie.
Et quand vous travaillez pour une entreprise de pompes funèbres, alors
En fait, le pompes funèbres, c'est tout sauf un endroit qui va être gai et joyeux. Et l'idée de mettre du parfum, c'est de trouver un petit peu plus de gaieté avec le parfum et puis de bien-être. Vous savez, aujourd'hui, les pompes funèbres, c'est plus comme les pompes funèbres d'avant où maintenant il y a des jolies couleurs, c'est beau, c'est agréable. Il faut que les clients, lorsqu'ils viennent, faut qu'ils arrivent. On essaye à travers différentes choses et notamment le parfum de leur donner un petit peu de gaieté, un peu de sourire.
Au même titre finalement que l'on dispose de fleurs.
Tout à fait, c'est pareil. Vous avez le côté visuel avec les fleurs, on met de plus en plus de fleurs, des plantes, et on va mettre l'odeur avec.
Annick Le Guerrer, les senteurs de l'au-delà, ça c'est un vrai sujet. Hein.
Les parfums de santé.
Oui.
Les parfums de santé.
Non mais l'odeur et la mort, il y a un vrai lien.
Il y a un très grand lien, et pour les Égyptiens de l'Égypte pharaonique, on ne pouvait accéder à la vie après la mort que si on sentait bon, que si on était un parfumé. C'est-à-dire un dieu, d'où les rituels d'embaumement, pour éviter justement l'odeur de putride qui accompagne la mort. Ces rituels d'embaumement avec de la cannelle, de la myrrhe, visaient à faire du défunt un parfumé, un dieu. Donc, très tôt, dès le développement de la parfumerie, le parfum a été associé, en effet, à l'au-delà.
Ouais, et on sait pourquoi on l'emploie. Stéphane Arfi, y a aussi des entreprises qui font appel à vos services de parfumeurs, mais enfin de diffuseurs d'ambiance olfactive, pour chasser des mauvaises odeurs, notamment des odeurs de nourriture. Alors c'est intéressant parce que dans nos témoignages d'auditeurs, beaucoup faisaient appel à ces souvenirs d'enfance liés à des odeurs de nourriture.
Oui, il y a des odeurs de nourriture qui peuvent être agréables, mais très souvent elles sont désagréables, notamment pour par exemple des hôtels ou des boutiques qui sont situées à côté de restaurants et qui, à certaines heures de la journée, peuvent avoir des problèmes olfactifs justement par rapport à ce que leurs voisins diffusent.
Est-ce que par exemple vous êtes parfois sollicité pour diffuser des odeurs de croissants chauds artificiels ? Pour faire rentrer le client à acheter de la nourriture, par exemple.
Oui, tout à fait, ça arrive. On a aussi on fait du pop-corn aussi pour les cinémas. On travaille beaucoup avec pas mal de cinémas et on parfume des cinémas avec le pop-corn. Mais
donc c'est pas la réelle odeur du pop-corn là. C'est un diffuseur artificiel.
C'est un diffuseur avec le parfum. Par contre, ça l'est quand même. C'est très souvent naturel. Ce que vous ressentez dans les boulangeries, c'est très souvent naturel. On croit souvent qu'il y a des diffuseurs. C'est très souvent naturel aussi.
Est-ce qu'on vend plus quand on parfume ?
Oui, surtout sur les notes gourmandes. Vous mettez du chocolat dans la rue, si vous trouvez un chocolatier dans le coin, ça va tout de suite vous ouvrir l'appétit et vous aurez envie de rentrer, évidemment.
Vous parfumez le siège social de Google en France. Il faut que ça sente quoi chez Google ?
Ben, Google, en fait, l'idée pour eux, c'était à la fois d'accueillir agréablement leur clientèle, les visiteurs, et puis aussi pour les employés, pour travailler dans un climat peut-être plus sympa, plus agréable, détente, zen. Donc, il n'y a pas d'odeur particulière. D'ailleurs, ils changent régulièrement. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir... c'est toujours pareil, c'est le côté agréable. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sièges sociaux en France qui s'équipent, qui parfument l'accueil, qui parfument les parties.
C'est ce qu'on appelle une
parfum signature.
C'est ça, parfum signature. Signature, donc pour un siège social.
Qui permet d'identifier l'entreprise.
Mais alors, on donne un cahier des charges, on va dire, non, Google, ça ne peut pas sentir la menthe, par exemple.
Non, mais le parfum signature, on le retrouve plus dans des grandes marques de prêt-à-porter, par exemple, dans des chaînes de magasins où, effectivement, là, on a un intérêt parce qu'on veut qu'il y ait cette identité de marque qui est visuelle, qui soit aussi olfactive à travers l'ensemble du réseau. Pour des marques comme pour des sièges sociaux, on est plus sur le côté bien-être. Donc, il n'y a pas vraiment de création d'identité olfactive. Mais pourquoi pas, on peut accorder le parfum avec une décoration. Quand c'est Noël, par exemple, on peut mettre une odeur d'orange cannelle, et puis quand c'est l'été, des odeurs de tiaré, des odeurs de monoï, des odeurs de plage.
Mais Havas et Hennessy s'étaient dotés d'un parfum signature. Havas diffusait à une certaine époque des parfums marins, des parfums floraux dans ses halls qui permettaient de reconnaître tout de suite l'agence Havas. Hennessy diffusait aussi les odeurs de ses cognacs, des odeurs caramel, pruneaux, épicés. Et ça, c'était des parfums signature.
Est-ce que c'est compliqué de diffuser des senteurs, techniquement ?
Non, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les diffuseurs, les produits qui existent sur le marché, on peut adapter à différents espaces. Et on travaille avec
donc c'est un très bon business pour vous ?
C'est un business qui se développe bien, qui a beaucoup de retard par rapport à de nombreux pays, mais c'est un business qui, ces deux dernières années, s'est bien développé et continue à se développer. On est en pleine démocratisation. Auparavant, on travaillait avec beaucoup d'hôtels et beaucoup de magasins. Et aujourd'hui, toutes les activités
s'intéressent. J'allais justement vous poser la question. Vous nous dites que la France est très en retard par rapport à d'autres pays. Lesquels ? Moi, je pensais que la France, au contraire, s'en sortait plutôt bien avec sa longue tradition de parfums. Ça n'est pas le cas ?
Non, ça, c'est vrai que on pourrait penser à ça, notamment le pays de Grasse, capitale
sud de la France.
Les États-Unis, c'est beaucoup plus culturel d'un point de vue mercantile aux États-Unis, par exemple, et puis culturel aussi quand vous allez dans les pays latins, comme en Espagne, par exemple. Vous allez en Espagne, quasiment tous les magasins sont parfumés, alors à chacun un petit peu à sa manière. Il y en a qui vont vous mettre une bougie parfumée, d'autres qui vont mettre un bâton d'encens. Mais tous les magasins sont parfumés. Vous allez aussi dans les pays du Maghreb, par exemple, vous allez dans les hôtels marocains, c'est classique, la fleur d'oranger, vous la retrouvez dans tous les hôtels quasiment du Maroc.
Est-ce qu'on vend plus quand on parfume ? On va y revenir dans quelques instants. Merci beaucoup pour ce témoignage, Stéphane Arfi, donc PDG de l'entreprise Emosens, qui est basée à Lyon. Vous vendez et à la fois du conseil et des diffuseurs de senteurs. 33 1 84 22 71 71 pour vos témoignages, la place des odeurs dans votre vie quotidienne.
7 milliards de voisins.
On est tout proches. On est ensemble.
Ça reste entre nous.
7 milliards de voisins. Et la planète se parle.
Olivier Claudon, vous avez travaillé sur les arnaques aux consommateurs. Les odeurs, ça tient une place dans les arnaques, dans ce que vous venez d'entendre notamment ?
Ben oui, ça tient une place. D'abord, je pense qu'on l'a entendu depuis le début, on l'a entendu dans vos témoignages. L'odeur, c'est lié à l'émotion, donc c'est perçu par beaucoup, c'est perçu quasiment par tout le monde. Personne ne peut rester insensible aux odeurs. Et c'est bien tout le problème, parce que le marketing olfactif dont on parle, c'est parfait et c'est très bien lorsqu'il s'agit de marketing de bien-être. C'est parfait dans des parkings souterrains et c'est très bien dans des sièges sociaux d'entreprise. Là où ça peut être plus dérangeant, c'est lorsque le marketing olfactif sert d'une certaine façon à manipuler le consommateur. Alors, pour être très clair, le boucher volailler qui sort ses broches et qui fait griller ses poulets devant son étal. Et lorsque vous passez devant sur le trottoir, c'est très difficile de résister parce que ça a une odeur de poulet grillé très agréable.
Oui, ça, c'est la réalité.
C'est la réalité. Vous achetez et ça, je trouve ça très bien. L'odeur de pop-corn dans le cinéma, pour moi, c'est déjà un peu plus la limite parce que on vous diffuse l'odeur artificiellement et on vous incite à consommer du pop-corn puisque la fin de tout ça, la finalité, c'est le marketing. Donc pour moi, si vous voulez, là, on touche à la limite. Et là où on touche, entre guillemets, à l'arnaque, pour moi, c'est lorsque vous avez une boulangerie, par exemple, qui va diffuser avec un diffuseur d'odeur, une odeur de pain chaud ou de croissant chaud, alors que la baguette en question ou le croissant n'est pas fabriqué du tout dans un four de la boulangerie, mais est livré le matin et simplement réchauffé. Et là, on vous donne l'impression d'acheter un produit fabriqué sur place et on vous donne l'impression de ressentir l'odeur de la fabrication du pain, et c'est pas du tout le cas. Et là, pour moi, on tombe dans la manipulation.
Alors, justement, on va laisser la parole à Bruno Dossé, qui est en studio à Rennes et qui est spécialiste de marketing émotionnel, enfin de marketing des sens. Donc, il y a évidemment le marketing olfactif, le pouvoir des odeurs. C'est ce qu'on interroge aujourd'hui. Bruno Dossé, les odeurs peuvent-elles faire vendre ?
Alors, oui, les odeurs peuvent faire vendre, surtout lorsque l'odeur diffusée est congruente avec le reste de l'aménagement du magasin ou les autres caractéristiques du produit. En fait, c'est un ensemble qui va participer à la vente du produit.
Personne ne reste plus longtemps dans le magasin si ça sent bon.
C'est ça. Très compliqué néanmoins de mesurer le pouvoir émotionnel d'une odeur. Oui, évidemment, il n'y a pas un thermomètre scientifique. On va y revenir. Vous restez avec nous, suite de notre émission sur le pouvoir des odeurs dans nos vies. En France, on aime se parfumer. Aux États-Unis, le parfum est perçu par les autres comme une agression. La bienséance sociale impose la discrétion. Ne rien sentir pour être à sa place. Vous voyez comme quoi c'est très culturel. 33 84 22 71 71, on en reparle.
« 7 milliards de voisins, on est ensemble. »
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines sur RFI. Aujourd'hui, ces odeurs qui nous gouvernent. Nous avons vu le pouvoir émotionnel des odeurs, mais difficile de mesurer ce pouvoir. Est-ce qu'on peut faire avec des odeurs? Une chose est sûre, cela participe à la vente aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le marketing olfactif. On en discute avec nos invités, et pas seulement du marketing olfactif. On parle aussi de l'histoire des odeurs. On a vu en première partie donc que les odeurs sont partout et sont créées, instrumentalisées, avec le témoignage de ce chef d'entreprise Stéphane Arfi qui parfume aussi bien les parkings souterrains que les cérémonies funèbres ou les sièges sociaux des multinationales. Annick Le Guerrier, vous êtes dans le studio avec nous, anthropologue et philosophe. Vous avez publié entre autres Les pouvoirs de l'odeur. Bruno Dossé, vous êtes spécialiste de marketing sensoriel. Et Olivier Claudon, vous avez publié Comment on manipule le consommateur. Vous nous appelez, les voisins et les voisines. Le numéro de téléphone est toujours le même, 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec un voisin qui nous appelle du Brésil. Bonjour Bernard.
Bonjour Emmanuel.
Bernard, vous avez 23 ans, vous êtes brésilien, vous vivez dans le sud-est du Brésil, hein, à Guarapari. Et vous avez pas mal voyagé, c'est pour ça que vous parlez bien français. Vous êtes enseignant d'anglais, d'allemand, d'italien. Et alors, c'est intéressant, vous avez dit au standard que vous associez finalement à chaque ville que vous visitez une odeur.
Oui, c'est ça, j'ai cette habitude d'associer les odeurs avec des villes. Bah, par exemple, quand je suis à Rio, c'est l'odeur de la mer. Quand je suis à São Paulo, c'est l'odeur de l'essence et de la pollution. Quand je suis à Paris, c'est l'odeur de viennoiserie et entre guillemets, le très bon odeur du RER et certaines lignes de métro. Je rigole un peu.
Attendez, l'odeur du RER à Paris?
Ah, c'est vrai, parce qu'il y a un odeur très caractéristique, je pense.
Ah oui, d'accord. Non, l'odeur du métro, je vois à peu près, effectivement, espèce de mélange de poussière. Mais le RER, il me semble qu'on a diffusé des senteurs dans le RER. Je ne sais pas qui peut me renseigner là-dessus, qui est au courant des senteurs qui sont diffusés dans le RER.
On a fait des tentatives.
Oui, Bruno Dossé.
On a fait des tentatives il y a déjà de nombreuses années. En fait, la RATP a développé une odeur qui s'appelle Madeleine, puisque c'était un test qui avait été réalisé à la station Madeleine. Mais bon, c'est des choses qui ne sont pas utilisées actuellement. En fait, ça pose des problèmes de coûts pour les gestionnaires des lignes. Et en dépit des odeurs désagréables qu'il peut y avoir parfois dans le métro, bon, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place dans des lieux confinés.
Oui. Surtout la quatrième ligne du métro, je pense.
Ah, la ligne 4, d'accord, qui passe par Châtelet, le centre de Paris. Une ligne qui est bourrée de monde.
Il y a les individus qui apportent leur propre odeur au sein du métro. Et puis, vous avez aussi les terrains traversés qui, en fonction de la nature du sol, vont également relâcher certaines odeurs.
Mais alors, Bernard, là, si par exemple, vous pouviez ouvrir une boîte à senteurs avec cette odeur caractéristique de la ligne 4 à Paris, vous auriez presque la sensation de vous trouver à Paris ?
Oui, bien sûr. Ouais. Quand je pense à ça, c'est sans la mémoire de Paris.
Et l'odeur des viennoiseries, si répandue que cela, vous diriez, à Paris?
Je ne comprends pas.
Cette odeur des viennoiseries que vous évoquiez tout à l'heure, Bernard, très caractéristique pour vous de la capitale française?
Ah oui, c'est vrai aussi, parce qu'il y en a pas de choses au Brésil. Quand je suis à Paris, moi j'aime sentir les odeurs des viennoiseries, des boulangeries, tout ça. Moi j'aime.
Ouais. Merci.
J'ai rigolé en fait. Ouais. C'est très caractéristique. Mais j'adore l'odeur des viennoiseries.
Et vous saviez que parfois ces odeurs pouvaient être artificielles, justement pour inciter le client, qu'il soit touriste ou pas, à acheter davantage?
Ah bon?
Oui.
Non, je savais pas. Alors, ça marche bien.
Alors justement, on va reposer la question à Bruno Dossé là sur ce. Est-ce que le marketing olfactif a réellement un pouvoir de faire rester davantage un client dans un lieu et de faire en sorte, voire même qu'il dépense davantage?
Alors le marketing olfactif, on l'a un peu vu tout à l'heure, en fait il a trois objectifs. Hein. Le premier, ça peut être d'attirer l'attention sur les produits qui sont vendus dans un magasin. Et donc là, on rend visible le produit grâce à des odeurs. Et forcément, si vous avez un consommateur qui est alerté de la présence du produit, on peut imaginer que ça contribue à la vente des produits. Donc ça, c'est des recherches qui commencent à apparaître. Pendant longtemps, on n'a pas pu faire le lien entre présence présence d'une odeur et augmentation des ventes. Et ça, c'est des choses qui apparaissent dans la littérature scientifique, où on a des effets sur le comportement d'achat des consommateurs.
Oui, on a quand même des enquêtes qui ont été menées notamment en 2010-2011 et qui ont prouvé quand même de façon chiffrée que le marketing olfactif fait vendre, qu'on reste plus longtemps dans un magasin qui diffuse un certain type d'odeur, que le panier moyen est plus important. Ça a été quand même prouvé dans les années au moins 2010, 2011 et 2012.
Oui. Alors toute la difficulté, c'est comment on explique cet effet, parce que souvent l'odeur peut avoir un effet distractif sur le comportement du consommateur.
Ah,
et
oui.
Donc pendant longtemps, on avait...
Il se déconcentre par rapport à ce qu'il doit acheter.
Oui, et on avait pendant longtemps des effets sur le temps de présence en magasin sans avoir d'effet sur le comportement d'achat. Et on imaginait que dans certains cas, l'odeur pouvait avoir un effet distractif et finalement... éloigner le consommateur de ce pourquoi il était venu dans le magasin. C'est vrai que depuis quelques années, on a ces mesures qui tendent à montrer que ça a un effet également sur les achats. Mais souvent, c'est uniquement lorsque l'odeur est congruente avec le produit ou avec la cible visée. Et donc si on est dans un magasin où on a une cible visée qui est par exemple des hommes, il faudra plutôt diffuser une odeur masculine. Et inversement, si on a plutôt un public de femmes.
C'est ça, tout est dans la cohérence effectivement entre la cible et l'odeur diffusée.
Ouais. Alors c'est vrai que pour nos auditeurs, évidemment, tout tourne beaucoup quand même autour de la cuisine. L'odorat, c'est d'abord un éveil des sens gustatifs, des papilles qui s'éveillent. On est en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Mopti au Mali. Lebeau, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs de l'émission 7 milliards de voisins.
On est ravis de vous accueillir. Lebeau, vous souhaitez revenir sur des souvenirs d'enfance qui sont forcément liés aux odeurs pour vous.
Exactement. Le souvenir que j'ai à vous faire par là, c'est vraiment bizarre. Vous allez dire que je suis gourmand. En fait, c'est pas ça. Mais c'est un reflet que j'ai eu depuis mon enfance. C'est le souvenir de ma grand-mère. En fait, au Mali, dès qu'on est garçon et que l'on a la chance de trouver une grand-mère en vie, c'est tout un bonheur, car celle-là te chouchoute et te considère comme son petit mari. C'est pas tant de ces contextes que j'ai été marqué par l'un de ces plats grâce à l'odeur du silure fumé qu'elle y mettait.
Ah oui, le silure, donc c'est un poisson fumé avec des condiments, c'est ça?
Exactement, ce plat s'appelle la soupe au poisson fumé. Dans mon enfance, quand je jouais à proximité de la concession avec des camarades d'âge et que mon nez repère cette odeur, immédiatement, c'est la fin de la partie pour moi et je rentrais en criant Fatou, 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 c'était le nom de la grand-maman. Je disais Fatou, c'est ma soupe qui est sur le feu comme ça. Et subitement, même maintenant, j'ai 27 ans, quand je suis dans les rues de passage, quand je repère ou bien j'ai eu vraiment l'instinct de cette odeur-là à travers la cuisine des voisines du quartier, ça me fait penser directement à ma grand-mère. Est décédé.
C'est ça, ces odeurs sont associées à des êtres chers, mais aujourd'hui encore, cette odeur peut déclencher quelque chose chez vous, c'est-à-dire un appétit subi pratiquement hein, et un plaisir.
Exactement, vraiment. Je pense que quand je vais me marier, ma femme doit vraiment apprendre les recettes de cette soupe-là pour vraiment se conquérir.
D'accord, c'est un des critères pour choisir une épouse. Merci Lebeau pour ce témoignage à Mopti au Mali, Annick Le Guerrer.
Mais ces odeurs d'enfant justement, de plats qu'on a aimés dans son enfance, la tarte aux pommes, les fraises à la crème, les parfumeurs s'en servent aujourd'hui pour faire des parfums justement apaisants, des parfums cocooning comme on dit, parce que dans les périodes de crise comme celle que nous vivons actuellement, les femmes sont souvent attirées davantage par des parfums qui les tranquillisent, dans lesquels elles peuvent se replonger, comme dans une petite bulle, plutôt que dans des parfums qui veulent faire de l'effet, à cause de la marque qu'on reconnaît tout de suite, les parfums cocooning, des parfums de bien-être à usage intime. Et c'est ces odeurs, justement, de mets sucrés et même quelquefois de plats salés aussi, qui sont utilisés. Et c'est toute une nouvelle branche de la parfumerie qui s'est développée en période de crise.
Tout à fait. Et ce qui est frappant, moi, je trouve, dans ce témoignage qu'on peut remarquer, c'est le marqueur extraordinaire que constitue une odeur. C'est-à-dire que c'est comme le vélo, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans après, elle revient, on s'en souvient immédiatement, elle nous ramène 50 ans en arrière et c'est là qu'on voit toute la puissance de l'odeur.
Oui. Voilà. Alors justement, on a justement sur cette mémoire des odeurs, peut-être vous vouliez intervenir Bruno Dosset sur ce sujet-là.
Oui, en fait, c'est une clé de récupération de souvenirs personnels. Oui. Et en fait, c'est lié à une neuroanatomie un peu particulière des odeurs. En fait, les les zones qui traitent les émotions sont également les zones qui traitent les odeurs. Mmh. Et donc, on a ce lien assez étroit entre émotion et odeur, mmh. avec la difficulté, par contre, que la mémorisation est plus difficile que pour d'autres sens. Mmh. Et donc, finalement, mémoriser une odeur, c'est parfois très compliqué, mais une fois mémorisé, en fait, on a un souvenir olfactif.
Exactement.
Qui s'use beaucoup
ouais.
moins vite que pour les autres sens.
Absolument.
Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71 pour participer à l'émission sur ces odeurs qui vous sont chères ou pas, d'ailleurs, qui peuvent vous être désagréables. On accueille un voisin qui est en région parisienne. Bonjour, Abdoura. Vous êtes dans l'émission en direct, Abdoura. Vous appartenez à la diaspora sénégalaise, je crois ?
Oui, exact.
Ouais. Et alors, il y a bien un lien avec l'odorat.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, vous allez bien nous parler sûr. De Tchouraï, de quoi allez-vous nous parler ?
Ah bah, les Tchouraï, ça me marque, mais il y a des choses plus marquantes pour moi. En fait, l'odeur qui me rappelle des moments, des lieux, c'est l'odeur de la terre après la pluie. Mm-hmm. Donc, voilà. Et c'est plus important pour moi du moment que ça me manque, je pourrais l'avoir à Paris.
Oui, parce que cette odeur de terre mouillée, même si vous allez dans la campagne, en région parisienne, vous ne la retrouverez
pas.
Pareil. Eh oui, c'est bien ça. Et il vous arrive parfois de rechercher une odeur qui, pour vous replonger dans un passé, dans la culture de votre pays, dans des souvenirs, vous parvenez à retrouver ces moments-là, à les emprisonner d'une certaine façon?
Ça m'arrive des fois, selon des lieux, il y a des odeurs qui viennent, des fois ça te rappelle automatiquement une personne, ça te rappelle des lieux. Et surtout, par exemple, l'exemple que je vais donner, peut-être l'odeur du fermé. Dans les lieux fermés, les ouais. placards, quelque chose comme ça. Là, ça me rappelle tout de suite, le Sénégal, chez moi, parce que j'ai eu une enfance un peu bordélique. J'ouvrais rarement mon armoire.
Et c'est vrai, ceci dit, que chaque maison a une odeur propre.
Hein. Particulière.
Ouais. Oui. Annick Le Guerrier, je pense que vous êtes d'accord
oui,
avec ça.
Tout à fait d'accord, parce que c'est dû aussi
du micro, Annick.
C'est dû à la cuisine que l'on fait, au parfum que l'on porte, à l'hygiène que l'on a, aux meubles que l'on a choisis, aux tissus que nous avons choisis. Donc, toutes les maisons ont une odeur particulière. C'est dû évidemment aussi aux matériaux de construction de la maison, bien évidemment. Et chaque maison a une âme olfactive.
Ouais. Et c'est ce qui fait la difficulté pour le marketing olfactif, parce qu'en fait, chaque nez est différent et les évocations sont bien souvent toujours personnelles.
Ouais. Alors justement, on verra tout à l'heure si il arrive que l'on fasse des gaffes culturelles en termes de marketing olfactif ou qu'on ait complètement raté ce qu'on a envie de dire aux consommateurs. Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on aura le témoignage de Guillaume Roland. Guillaume Roland, c'est un jeune de 18 ans que nous avons enregistré juste avant son départ pour les États-Unis pour la finale du concours d'invention Google. Vous verrez, il y a un lien avec les odeurs.
In Chile, in Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op room to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
In Chile, we will sing with you.
Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you
tempo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
18 ans, jeune bachelier. Bonjour Guillaume Roland.
Bonjour Emmanuel.
Vous venez tout juste de remporter plusieurs prix et non des moindres. Médaille d'or du concours Lépine, également le concours international Google Science Fair. Vous partez d'ailleurs bientôt pour les États-Unis recevoir votre prix. Tout ça pour un réveil matin nouvelle génération. On est réveillé non pas par une sonnerie, mais par des odeurs. Pourquoi donc ?
Alors le choix des odeurs, c'est assez simple. C'est pour d'abord éviter les frustrations du matin, donc soit sonnerie sonore ou lumineuse. Et c'est aussi adapté pour les personnes âgées qui ont des déficiences sensorielles. Donc du coup, peuvent avoir une autonomie le matin et être plus indépendants pour se réveiller seuls.
Ouais, donc pour éviter les réveils du pied gauche, comme on dit couramment, être de mauvaise humeur toute la journée, comment ça fonctionne techniquement ce réveil matin par des odeurs que vous avez conçues entièrement ?
Ça ressemble en fait à une machine à café avec dosette, c'est-à-dire qu'on choisit son odeur via une dosette qu'on introduit dans le réveil, et le matin il y a une création d'un flux d'air parfumé qui est expulsé à l'extérieur du réveil et qui va être diffusé vers l'utilisateur endormi. Il lui va se réveiller entre 30 secondes et 1 minute, pour commencer sa journée du mieux uniquement avec l'odeur.
Et avec quel type d'odeur ? Qu'est-ce qui marche le mieux pour se réveiller en pleine forme ?
Alors les odeurs choisies doivent être stimulantes, c'est-à-dire que par exemple si on utilise de la lavande, ça ne va pas réveiller. Donc là, il y a une recherche pour savoir quelles odeurs peuvent réveiller. Donc on part par exemple sur de la menthe, sur de la cannelle. Par exemple, la cannelle, c'est ce que mettent les chauffeurs routiers sur leur tapis de sol pour ne pas s'endormir au volant. Donc c'est des odeurs qui boostent et qui permettent du coup de réveiller s'ils sont assez concentrés lors d'un sommeil profond.
Vous avez eu des aides techniques pour réaliser cette machine qui fonctionne un peu comme une machine à café avec ces petites capsules qu'on introduit la veille avant de s'endormir ?
Alors exactement, machine à café mais qui fait pas de bruit cette fois-ci, parce que quand ça réveillerait avec le son. Donc là j'ai eu l'aide d'une école d'ingénieurs Centrale Nantes pour l'impression 3D, donc le prototypage. Sinon il y a eu aussi l'aide de DocuWorld, un groupe français où ils sont basés à Nantes avec Héliographie. Donc là c'est pour tout ce qui est communication visuelle, les flyers, tout ça. Et avec l'aide de ces différents partenaires et non des moindres, j'ai pu du coup réaliser ce projet de toute pièce et là le présenter donc à Google et aussi au concours Lépine à Strasbourg.
Est-ce que vous avez compris pourquoi vous aviez remporté autant de prix avec ce réveil matin à odeur, Guillaume Roland, qui s'appelle d'ailleurs Sensor Wake ?
Bah, je pense que ça plaît aux gens, ça parle beaucoup. On fait fonctionner le réveil, ils sentent le jet puissant et ils disent c'est vrai que se réveiller avec une odeur, pourquoi pas ? Ça enlèverait les frustrations. Donc ça plaît aux gens, l'aspect technique aussi est assez facile à comprendre. Et là, vraiment, quand on propose le choix des odeurs via les dosettes, ça parle encore plus parce que les gens utilisent ce fonctionnement avec leur machine à café. Donc, ils s'imaginent pouvoir utiliser cette technologie pour le réveil.
Vous avez le sentiment que les odeurs, surtout à l'heure où de plus en plus d'habitants vivent en ville, où il n'y a quand même pas d'odeur particulièrement agréable, que les odeurs, finalement, ne sont pas assez prises en compte dans notre vie quotidienne et puis aussi dans l'imagination commerciale ?
Ça tend à grandir, tout ce qui est marketing olfactif et développement des odeurs. Mais contrairement aux couleurs, où là on peut par exemple additionner des couleurs, former vraiment les couleurs qu'on souhaite, les odeurs c'est tout de suite plus dur.
Vous préparez votre entrée à l'université technologique de Compiègne pour devenir ingénieur, puisque vous avez eu le bac là avant l'été. Vous allez continuer à développer votre projet de réveil olfactif, Guillaume Roland ?
Le but c'est de continuer le projet à l'UTC. Au sein de l'école, ils ont un centre d'innovation très accompli avec des super machines, des profs, enseignants-chercheurs, on va dire à la pointe de la technologie. Et du coup, voilà, le but c'est de continuer le projet, trouver des industriels, des partenaires et avoir les fonds. Donc là, c'est vrai qu'avec une entreprise comme Google, ça peut donner un bon coup de pouce.
Et vous, personnellement, quelle est l'odeur qui a votre faveur pour vous réveiller en pleine forme ou quelle est l'odeur que vous rêvez peut-être d'introduire dans votre réveil matin ?
Alors l'odeur que j'utilise moi depuis à peu près 8 mois, c'est le menthol, donc la menthe poivrée en fait. Et c'est une odeur que j'ai pu extraire moi-même dans les labos de mon lycée, donc c'est une odeur qui m'est particulièrement chère. Sinon, une des odeurs qui pourrait peut-être être envisageable, c'est l'odeur du dollar. Donc là, on rentre dans le marketing.
Sérieusement, sérieusement, l'odeur du dollar.
On peut synthétiser par exemple l'odeur de fraise tagada, de croissant chaud, de viennoiserie. de sur de bois, et aussi du coup l'odeur du dollar. Donc on va dire l'encre qui est utilisée pour imprimer ça, retranscrite dans un flacon qui pourrait être introduit dans une dosette.
Et qui a dit que l'argent n'avait pas d'odeur? Guillaume Roland n'a hélas pas remporté cette nuit l'ultime finale du concours d'invention Google, mais il est déjà allé très loin. Il n'a que 18 ans. Je voudrais qu'on laisse la parole pour terminer cette émission à Awa, qui est en région parisienne. Bonjour Awa, Ava, pardon.
Bonjour.
Vous êtes non-voyante, Ava, et vous souhaitez justement nous parler de votre perception des odeurs.
Absolument, c'est quelque chose d'extrêmement présent. Et j'indiquais tout à l'heure que voilà, j'ai un chien guide. Il m'arrive régulièrement de me servir de l'odorat comme outil, notamment lorsque je me perds et que c'est un chemin que je connais plus ou moins bien, ou que j'ai déjà sur lequel j'ai déjà cheminé. Mais en fait, si je suis perdue parce que mon chien s'est barré ailleurs, je me retrouve grâce à certaines odeurs. Ouais. Et dans ce cas présent, ça devient un outil pour moi, véritablement.
Mais vous avez une longueur d'avance par rapport à nous, les voyants, c'est clair, non, là-dessus?
Je sais pas, je pense simplement qu'on a les mêmes capacités, vous et moi, et c'est juste que moi je les ai certainement activées parce que j'en ai besoin. Et ça devient, effectivement, ça devient réellement un outil en dehors de tout ce que vous avez développé auparavant et qui est très très juste. Hein.
Et notamment, vous avez entendu le témoignage de cet auditeur au Brésil qui nous parlait de l'odeur du métro, pour lui si caractéristique, ou du RER. Vous êtes d'accord avec ça, Ava, vous qui êtes non-voyante?
Oui, par exemple, mon fils me dit la même chose, tout comme ce cher jeune homme qui vient d'inventer son réveil à odeur, l'argent du dollar, et il a ce dollar, il a une odeur très spéciale.
Vous confirmez?
Je suis tout à fait d'accord. Et c'est,
merci.
J'ai pas une longueur d'avance par rapport à vous, mais c'est nécessaire, hein. C'est comme mes yeux, l'odeur devient quasiment une image, quoi.
Merci Ava pour ce témoignage. Vous êtes non-voyante et vous êtes particulièrement sensible aux odeurs. Justement, on va poser la question à Bruno Dosset. Finalement, les odeurs ont-ils davantage de place à l'avenir dans nos sociétés ou pas?
Elles auront davantage de place dans la mesure où aujourd'hui les technologies existent pour pouvoir intégrer assez facilement une odeur à un produit et diffuser une odeur dans un magasin. C'était le principal frein qu'on pouvait avoir par le passé. Reste encore la difficulté à recréer les odeurs dont on a besoin. C'est vrai qu'on peut créer n'importe quelle odeur et vous avez des spécialistes qui sont capables à partir d'une odeur qu'on leur soumet.
Ouais, la technologie avance dans ce domaine. Annick Le Guerrier, vous souhaitez conclure sur la manipulation d'employés qui est possible par les odeurs?
Oui, les employés de l'entreprise Kojima Corporation au Japon avaient été manipulés par les odeurs dans les années 80, des odeurs de citron le matin pour les réveiller, des odeurs florales un peu plus tard dans la journée pour activer leur concentration, des odeurs boisées en fin de journée pour les détendre. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que les odeurs sont de plus en plus présentes dans nos sociétés. Elles s'immiscent dans les hôpitaux pour permettre aux gens qui ont été dans le coma de retrouver le langage. Elles s'immiscent dans les prisons pour socialiser les prisonniers. Elles servent à la théâtralisation des événements culturels. Et il y a des entreprises de marketing olfactif comme Smell Marketing, Save Essence, qui font des parfums bio pour théâtraliser les événements culturels et apporter en même temps que cette théâtralisation par l'odeur du bien-être aux spectateurs. Donc les odeurs sont amenées à être de plus en plus présentes, même dans l'apprentissage de l'alphabet, les odeurs interviennent. On associe par exemple à la lettre B une image de banane et une odeur de banane.
Et on apprendra mieux à lire.
Pour qu'il y ait un plus fort impact.
Ouais. Mais les jeux vidéo. Tout ça semble paradoxal alors qu'on vit de plus en plus en ville, dans des lieux où les odeurs naturelles, par définition, disparaissent de nos vies.
Parce qu'il y a eu une désodorisation des villes depuis la fin du XVIIIe siècle, dont on ne sent plus les odeurs d'ordures, d'égouts, sauf quand même dans certains endroits dans Paris. Mais justement, parallèlement à cette désodorisation, il y a un remplissage des villes par toutes sortes d'odeurs qui viennent aussi du marketing olfactif.
Ouais, j'aime cette idée du remplissage des villes par de nouvelles odeurs. Merci beaucoup. Olivier Claudon, pour conclure, vous prenez une vigilance du consommateur vis-à-vis des odeurs qui peuvent trop nous gouverner?
Ben oui, qu'est-ce qu'on voit depuis une heure dans votre émission? C'est l'extraordinaire pouvoir de l'odeur, finalement. Voilà, l'extraordinaire pouvoir qu'elle a sur nous tous. Alors, je crois effectivement que les odeurs vont être amenées à se développer. Et comme tout elle devient un pouvoir, et comme tout pouvoir, ma foi, il faut être vigilant, et je pense que c'est à nous tous de devenir des, je ne sais pas comment on pourrait dire, moi, des olfacto-citoyens, ou des olfacto-vigilants, et de bien veiller à tout ça dans les années à venir.
Pour conclure, je voudrais lire le message d'une Française qui apparemment vit aux États-Unis, qu'elle a posté sur le fil Facebook, très intéressant. Elle dit que c'est vrai que l'odeur est culturelle aux États-Unis, ce qui est inacceptable là-bas, c'est l'odeur corporelle qu'il faut masquer à tout prix. Elle dit que la perception de l'odeur chez les Américains devrait faire l'objet d'une étude psychologique. Moi, comme je suis Française, je suis toléré avec mon parfum fort, parce que finalement les Françaises ont un peu une réputation sexuelle sulfureuse, mais finalement ça suscite aussi des réactions de rejet. Voilà, merci à vous tous pour tous vos témoignages. Annick Le Guerrier, vous êtes anthropologue et philosophe et vous avez publié entre autres Les pouvoirs de l'odeur chez Odile Jacob. Olivier Clodon, vous êtes ancien professeur à l'ECP Paris et vous avez publié La Grande Arnaque, comment on manipule le consommateur chez Erol. Et aujourd'hui, vous êtes consultant politique. Est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy, ça a une odeur de déjà senti, je ne sais pas.
Ça, on verra dans les semaines qui viennent.
Bruno Dossé, quant à vous, merci déjà à France Bleu Armorique qui vous a accueilli dans ses studios à Rennes. Vous êtes spécialiste de marketing sensoriel. Et puis, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solar, c'est Didier Chéroux. Ça, c'était toute l'équipe qui était également avec moi derrière ce micro pour diffuser l'émission et pour toutes vos réactions. Vous pouvez bien sûr nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Demain, pas tout à fait l'odorat, mais nous resterons dans la cuisine, la gastronomie à la française. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. À demain.